Un arrêt de Balzac, Gambara. C'est au coin du feu, dans une mystérieuse, dans une splendide retraite qui n'existe plus, mais qui vivra dans notre souvenir et d'où nos yeux découvraient Paris, depuis les collines de Bellevue jusqu'à celles de Belleville, depuis Montmartre jusqu'à l'Arc de Triomphe de l'Étoile, que par une matinée arrosée de thé, à travers les mille idées qui naissent et s'éteignent comme des fusées dans votre étincelante conversation, vous avez, prodigue d'esprit, jeté sous ma plume ce personnage digne d'Hoffmann, ce porteur de trésors inconnus, ce pèlerin assis à la porte du paradis, ayant des oreilles pour écouter les chants des anges, n'ayant plus de langue pour les répéter, agitant sur les touches d'ivoire des doigts brisés par les contractions de l'inspiration divine et croyant exprimer la musique du ciel à des auditeurs stupéfaits. Vous avez créé Gambara, je ne l'ai qu'habillé. Laissez-moi rendre à César ce qui appartient à César, en regrettant que vous ne saisissiez pas la plume, à une époque où les gentilshommes doivent s'en servir aussi bien que de leur épée afin de sauver leur pays. Vous pouvez ne pas penser à vous, mais vous nous devez vos talents. Le premier jour de l'an 1831, vidait ses cornets de dragée, 4 heures sonnaient, il y avait foule au palais royal et les restaurants commençaient à s'emplir. En ce moment, un coupé s'arrêta devant le perron. Il en sortit un jeune homme de fière mine, étranger sans doute. Autrement, il n'aurait eu ni le chasseur à plumes aristocratique, ni les armoiries que les héros de Juillet poursuivaient encore. L'étranger entra dans le palais royal et suivit la foule sous les galeries, sans s'étonner de la lenteur à laquelle l'affluence des curieux condamnait sa démarche. Il semblait habitué à l'allure noble qu'on appelle ironiquement un pas d'ambassadeur, mais sa dignité sentait un peu le théâtre. Quoique sa figure fût belle et grave, son chapeau, d'où s'échappait une touffe de feu noir bouclée, inclinait peut-être un peu trop sur l'oreille droite et démentait sa gravité par un air tant soit peu mauvais sujet. Ses yeux distraits et à demi fermés laissaient tomber un regard dédaigneux sur la foule. Voilà un jeune homme qui est fort beau, dit à voix basse une grisette en se rangeant pour le laisser passer. Oh, et qui le sait trop, répondit tout haut sa compagne qui était laide. Après un tour de galerie, le jeune homme regarda tour à tour le ciel et sa montre, fit un geste d'impatience, entra dans un bureau de tabac, y alluma un cigare, se posa devant une glace et jeta un regard sur son costume, un peu plus riche que ne le permettent en France les lois du goût. Il rajusta son col et son gilet de velours noir, sur lequel se croisait plusieurs fois une de ces grosses chaînes d'or fabriquées à Gênes. Puis, après avoir jeté par un seul mouvement sur son épaule gauche son manteau doublé de velours en le drapant avec élégance, il reprit sa promenade sans se laisser distraire par les œillades bourgeoises qu'il recevait. Quand les boutiques commencèrent à s'illuminer et que la nuit lui parut assez noire, il se dirigea vers la place du Palais Royal, un homme qui craignait d'être reconnu car il côtoya la place jusqu'à la fontaine pour gagner à l'abri des fiacres l'entrée de la rue Froidmanteau, rue sale, obscure et mal hantée, une sorte d'égout que la police tolère auprès du palais royal à Seni, de même qu'un majordome italien laisserait un valet négligent entasser dans un coin de l'escalier les balayures de l'appartement. Le jeune homme hésitait. On eût dit d'une bourgeoise endimanchée, allongeant le cou devant un ruisseau grossi par une averse. Cependant, l'heure était bien choisie pour satisfaire quelques honteuses fantaisies. Plus tôt on pouvait être surpris, plus tard on pouvait être devancé. S'être laissé convier par un de ces regards qui encouragent sans être provoquant, avoir suivi pendant une heure, pendant un jour peut-être, une femme jeune et belle, l'avoir divinisée dans sa pensée et avoir donné à sa légèreté mille interprétations avantageuses, s'être repris à croire aux sympathies soudaines, irrésistibles, avoir imaginé, sous le feu d'une excitation passagère, une aventure dans un siècle où les romans s'écrivent précisément parce qu'ils n'arrivent plus, avoir rêvé balcon, guitare, stratagème, verrou, et s'être drapé dans le manteau d'Alma Viva, après avoir écrit un poème dans sa fantaisie, s'arrêter à la porte d'un mauvais lieu, puis, pour tout dénouement, voir dans la retenue de sa rosine une précaution imposée par un règlement de police, n'est-ce pas une déception par laquelle ont passé bien des hommes qui n'en conviendront pas? Les sentiments les plus naturels sont ceux qu'on avoue avec le plus de répugnance et la fatuité d'un ces sentiments-là. Quand la leçon ne va pas plus loin, un Parisien en profite ou l'oublie, et le mal n'est pas grand. Mais il n'en devait pas être ainsi pour l'étranger, qui commençait à craindre de payer un peu cher son éducation parisienne. Ce promeneur était un noble milanais, banni de sa patrie où quelques équipées libérales l'avaient rendu suspect au gouvernement autrichien. Le comte Andrea Marcosini s'était vu accueillir à Paris avec cet empressement tout français qui rencontreront toujours un esprit aimable, un nom sonore, accompagné de 200 000 livres de rente et d'un charmant extérieur. Pour un tel homme, l'exil devait être un voyage de plaisir. Ses biens furent simplement séquestrés, et ses amis l'informèrent qu'après une absence de 2 ans au plus, il pourrait sans danger reparaître dans sa patrie. Après avoir fait rimer sans danger crudeli affanni avec i vieilli tiranni dans une douzaine de sonnets, après avoir soutenu de sa bourse les malheureux Italiens réfugiés, le comte Andrea, qui avait le malheur d'être poète, se crut libéré de ses idées patriotiques. Depuis son arrivée, il se livrait donc sans arrière-pensée au plaisir de tout genre que Paris offre gratis à quiconque est assez riche pour les acheter. Ses talents et sa beauté lui avaient valu bien des succès auprès des femmes qu'il aimait collectivement, autant qu'il convenait à son âge, mais parmi lesquelles il n'en distinguait encore aucune. Ce goût était d'ailleurs subordonné en lui à ceux de la musique et de la poésie qu'il cultivait depuis l'enfance, et où lui paraissait plus difficile et plus glorieux de réussir qu'en galanterie, puisque la nature lui épargnait les difficultés que les hommes aiment à vaincre. Homme complexe comme tant d'autres, il se laissait facilement séduire par les douceurs du luxe, sans lequel il n'aurait pu vivre, de même qu'il tenait beaucoup aux distinctions sociales que ses opinions repoussaient. Aussi ses théories d'artiste, de penseur, de poète étaient-elles souvent en contradiction avec ses goûts, avec ses sentiments, avec ses habitudes de gentilhomme millionnaire. Mais il se consolait de ses non-sens en les retrouvant chez beaucoup de Parisiens, libéraux par intérêt, aristocrates par nature. Il ne s'était donc pas surpris sans une vive inquiétude, le 31 décembre 1830, à pied, par un de nos dégels, attaché au pas d'une femme dont le costume annonçait une misère profonde, radicale, ancienne, invétérée, qui n'était pas plus belle que tant d'autres, qu'il voyait chaque soir au Bouffon, à l'Opéra, dans le Monde, et certainement moins jeune que Madame de Manerville, de laquelle il avait obtenu un rendez-vous pour ce jour même et qu'il attendait peut-être encore. mais il y avait dans le regard à la fois tendre et farouche, profond et rapide, que les yeux noirs de cette femme lui dardaient à la dérobée, tant de douleurs et tant de voluptés étouffées. Mais elle avait rougi avec tant de feu quand, au sortir d'un magasin où elle était demeurée un quart d'heure, et ses yeux s'étaient si bien rencontrés avec ceux du Milanais qu'il avait attendu à quelques pas. Il y avait enfin tant de mais et de si que le comte, envahi par une de ces tentations furieuses pour lesquelles il n'est de nom dans aucun lang, même dans celle de l'orgie, s'était mis à la poursuite de cette femme, chassant enfin à la grisette comme un vieux parisien. Chemin faisant, soit qu'il se trouvât suivre ou devancer cette femme, il l'examinait dans tous les détails de sa personne ou de sa mise, afin de déloger le désir absurde et fou qui s'était barricadé dans sa cervelle. Il trouva bientôt à cette revue un plaisir plus ardent que celui qu'elle avait goûté la veille, en contemplant, sous les ondes d'un bain parfumé, les formes irréprochables d'une personne aimée. Parfois, baissant la tête, l'inconnu lui jetait le regard oblique d'une chèvre attachée près de la terre, et se voyant toujours poursuivie, elle hâtait le pas, comme s'il ait voulu fuir. Néanmoins, quand un embarras de voiture ou tout autre accident ramenait Andréa près d'elle, le noble la voyait fléchir sous son regard sans que rien dans ses traits exprimât le dépit. Ces signes certains d'une émotion combattue donnèrent le dernier coup d'éperon au rêve désordonné qui l'emportait, et il galopa jusqu'à la rue Froidmanteau, où après bien des détours, l'inconnu entra brusquement, croyant avoir dérobé sa trace à l'étranger, bien surpris de ce manège. Il faisait nuit. Deux femmes tatouées de rouge, qui buvaient du cassis sur le comptoir d'un épicier, virent la jeune femme et l'appelèrent. L'inconnu s'arrêta sur le seuil de la porte, répondit par quelques mots pleins de douceur au compliment cordial qui lui fut adressé, et reprit sa course. Andrea, qui marchait derrière elle, la vit disparaître dans une de ses plus sombres allées de cette rue dont le nom lui était inconnu. L'aspect repoussant de la maison où venait d'entrer l'héroïne de son roman lui causa comme une nausée. En reculant d'un pas pour examiner les lieux, il trouva près de lui un homme de mauvaise mine et lui demanda des renseignements. L'homme appuya sa main droite sur un bâton noueux, posa la gauche sur sa hanche et répondit par un seul mot « Farceur !» Mais en toisant l'Italien, sur qui tombait la lueur du réverbère, sa figure prit une expression pateline. « Ah, pardon, monsieur !» reprit-il en changeant tout à coup de ton. « Il y a aussi un restaurant, une sorte de table d'hôte, où la cuisine est fort mauvaise, et où l'on met du fromage dans la soupe. Peut-être monsieur cherche-t-il cette gargote, car il est facile de voir au costume que monsieur est italien. Les Italiens aiment beaucoup le velours et le fromage. Si monsieur veut que je lui indique un meilleur restaurant, j'ai à deux pas d'ici une tante qui aime beaucoup les étrangers. » Andrea releva son manteau jusqu'à ses moustaches et s'élança hors de la rue, poussé par le dégoût que lui causa cet immonde personnage, dont l'habillement et les gestes étaient en harmonie avec la maison ignoble où venait d'entrer l'inconnu. Il retrouva avec délice les mille recherches de son appartement et alla passer la soirée chez la marquise d'Espard pour tâcher de laver la souillure de cette fantaisie qu'il avait si tyranniquement dominée pendant une partie de la journée. Cependant, lorsqu'il fut couché, par le recueillement de la nuit, il retrouva sa vision du jour, mais plus lucide et plus animée que dans la réalité. L'inconnu marchait encore devant lui. Parfois, en traversant les ruisseaux, elle découvrait encore sa jambe ronde. Ses hanches nerveuses tressaillaient à chacun de ses pas. Andrea voulait de nouveau lui parler et n'osait, lui, Marcosini, noble milanais. Puis il la voyait entrant dans cette allée obscure qu'il lui avait dérobée, et il se reprochait alors de ne l'y avoir point suivi. Car enfin, se disait-il, si elle m'évitait et voulait me faire perdre ses traces, elle-même. Chez les femmes, de cette sorte, la résistance est une preuve d'amour. Si j'avais poussé plus loin cette aventure, j'aurais fini peut-être par y rencontrer le dégoût et je dormirais tranquille. Le comte avait l'habitude d'analyser ses sensations les plus vives, comme font involontairement les hommes qui ont autant d'esprit que de cœur, et il s'étonnait de revoir l'inconnu de la rue Froidmanteau, non dans la pompe idéale des visions, mais dans la nudité de ses réalités affligeantes. Et néanmoins, si sa fantaisie avait dépouillé cette femme de la livrée de la misère, elle la lui aurait gâtée, car il la voulait, il la désirait, il l'aimait avec ses bas crottés, avec ses souliers éculés, avec son chapeau de paille de riz. Il la voulait dans cette maison même où il l'avait vue entrer. Oh, « Mais suis-je donc épris du vice ?» se disait-il tout effrayé. Oh, « Je n'en suis pas encore là, j'ai 23 ans et n'ai rien à vieillard blasé. » L'énergie même du caprice dont il se voyait le jouet le rassurait un peu. Cette singulière lutte, cette réflexion et cet amour à la course pourront à juste titre surprendre quelques personnes habituées au train de Paris. Mais elles devront remarquer que le comte Andrea Marcosini n'était pas français. Élevé entre deux abbés qui, d'après la consigne donnée par un père dévot, le lâchèrent rarement, Andrea n'avait pas aimé une cousine à 11 ans, ni séduit à 12 la femme de chambre de sa mère. Il n'avait pas hanté ses collèges où l'enseignement le plus perfectionné n'est pas celui que vend l'État. Enfin, il n'habitait Paris que depuis quelques années. Il était donc encore accessible à ces impressions soudaines et profondes contre lesquelles l'éducation et les mœurs françaises forment une égide si puissante. Dans les pays méridionaux, de grandes passions naissent souvent d'un coup d'œil. Un gentilhomme gascon, qui tempérait beaucoup de sensibilité par beaucoup de réflexion, s'était approprié prier 1000 petites recettes contre les soudaines apoplexies de son esprit et de son cœur, avait conseillé au comte de se livrer au moins une fois par mois à quelque orgie magistrale pour conjurer ces orages de l'âme qui, sans de telles précautions, éclatent souvent mal à propos. Andrea se rappela le conseil. « Eh bien, pensa-t-il, je commencerai demain, 1er janvier. » Ceci explique pourquoi le comte Andrea Marcosini louvoyait si timidement pour entrer dans la rue Froidmanteau. L'homme élégant embarrassait l'amoureux. Il hésita longtemps. Mais après avoir fait un dernier appel à son courage, l'amoureux marcha d'un pas assez ferme jusqu'à la maison qu'il reconnut sans peine. Là, il s'arrêta encore. Cette femme, était-elle bien ce qu'il imaginait? N'allait-il pas faire quelque fausse démarche? Il se souvint alors de la table d'hôte italienne et s'empressa de saisir un moyen terme qui servait à la fois son désir et sa répugnance. Il entra pour dîner et se glissa dans l'allée au fond de laquelle il trouva, non sans tâtonner longtemps, les marches humides et grasses d'un escalier qu'un grand seigneur italien devait prendre pour une échelle. Attiré vers le premier étage par une petite lampe posée à terre et par une forte odeur de cuisine, Il poussa la porte entr'ouverte et vit une salle brune de crasse et de fumée où trottait une léonarde occupée à parer une table d'environ 20 couverts. Aucun des convives ne s'y trouvait encore. Après un coup d'œil jeté sur cette chambre mal éclairée et dont le papier tombait en lambeaux, le noble alla s'asseoir près d'un poêle qui fumait et ronflait dans un coin. Amené par le bruit que fit le comte en entrant et déposant son manteau, le maître d'hôtel se montra brusquement. Figurez-vous un cuisinier maigre, sec, d'une grande taille, doué d'un nez grassement démesuré, et jetant autour de lui par moments et avec une vivacité fébrile un regard qui voulait paraître prudent. À l'aspect d'Andrea, dont toute la tenue annonçait une grande aisance, il signor Giardini s'inclina respectueusement. Le comte manifesta le désir de prendre habituellement ses repas en compagnie de quelques compatriotes, de payer d'avance un certain nombre de cachets et sut donner à la conversation une tournure familière afin d'arriver promptement à son but. À peine eut-il parlé de son inconnu que il signor Giardini fit un geste grotesque et regarda son convive d'un air malicieux en laissant errer un sourire sur ses lèvres. « Basta !» s'écria-t-il. « Capisco !»« Votre seigneurie est conduite ici par deux appétits. La signora Gambara n'aura point perdu son temps si elle est parvenue à intéresser un seigneur aussi généreux que vous paraissez l'être. En peu de mots, je vous apprendrai tout ce que nous savons ici sur cette pauvre femme vraiment bien digne de pitié. » Le mari est né, je crois, à Crémone et arrive d'Allemagne. Il voulait faire prendre une nouvelle musique et de nouveaux instruments chez les Tedeschi. N'est-ce pas faire pitié ? Dit Giardini en haussant les épaules. Il signor Gambara, qui se croit un grand compositeur, ne me paraît pas fort sur tout le reste. Galant homme, d'ailleurs, plein de sens et d'esprit. Quelquefois fort aimable, surtout quand il a bu quelques verres de vin, car rare, vu sa profonde misère, il s'occupe nuit et jour à composer des opéras et des symphonies imaginaires, au lieu de chercher à gagner honnêtement sa vie. Sa pauvre femme est réduite à travailler pour toutes sortes de monde, le monde de la borne. Que voulez-vous ? Elle aime son mari comme un père et le soigne comme un enfant. Beaucoup de jeunes gens ont dîné chez moi pour faire leur coup à madame, mais pas un n'a réussi, dit-il en appuyant sur le dernier mot. La signora Marianna est sage, mon cher monsieur, trop sage pour son malheur. Les hommes ne donnent rien pour rien aujourd'hui. La pauvre femme mourra donc à la peine. Vous croyez que son mari la récompense de ce dévouement ? Oh ben, monsieur, ne lui accorde pas un sourire, et leur cuisine se fait chez le boulanger, car non seulement ce diable d'homme ne gagne pas un sou, mais encore il dépense tout le fruit du travail de sa femme en instruments qu'il taille, qu'il allonge, qu'il raccourcit, qu'il démonte et remonte, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rendre que des sons à faire fuir les chats. Alors il est content. Et pourtant, vous verrez en lui le plus doux, le meilleur de tous les hommes, et nullement paresseux. Il travaille toujours. Que vous dirais-je ? Il est fou, et ne connaît pas son état. Je l'ai vu limant et forgeant ses instruments, manger du pain noir avec un appétit qui me faisait envie à moi-même, à moi, monsieur, qui est la meilleure table de Paris. Oui, excellence. Avant un quart d'heure, vous saurez quel homme je suis. J'ai introduit dans la cuisine italienne des raffinements qui vous surprendront. Excellence, je suis napolitain, c'est-à-dire né cuisinier. Mais à quoi sert l'instinct sans la science ? La science, j'ai passé 30 ans à l'acquérir, et voyez où elle m'a conduit. Mon histoire est celle de tous les hommes de talent. Mes essais, mes expériences ont ruiné 3 restaurants successivement fondés à Naples, à Parme et à Rome. Aujourd'hui, que je suis encore réduit à faire métier de mon art, je me laisse aller le plus souvent à ma passion dominante. Je sers à ces pauvres réfugiés quelques-uns de mes ragoûts de prédilection. Je me ruine ainsi. Sottise, direz-vous. Oh, je le sais, mais que voulez-vous? Le talent m'emporte et je ne puis résister à confectionner un mec qui me sourit. Ils s'en aperçoivent toujours, les gaillards. Ils savent bien, oh, je vous le jure, qui de ma femme ou de moi a servi la batterie. Qu'arrive-t-il? 60 et quelques convives que je voyais chaque jour à ma table, à l'époque où j'ai fondé ce misérable restaurant, je n'en reçois plus aujourd'hui qu'une 20aine environ, à qui je fais crédit pour la plupart du temps. Les Piémontais, les Savoyards sont partis, mais les connaisseurs, les gens de goût, les vrais Italiens me sont restés. Aussi pour eux n'est-il sacrifice que je ne fasse. Je leur donne bien souvent pour 25 sous par tête un dîner qui me revient au double. La parole du signor Giardini sentait tant la naïve rouerie napolitaine que le comte charmé se crut encore à Gérolamo. Ben, puisqu'il en est ainsi, mon cher hôte, dit-il familièrement au cuisinier, puisque le hasard et votre confiance m'ont mis dans le secret de vos sacrifices journaliers, permettez-moi de doubler la somme. En achevant ces mots, Andrea faisait tourner sur le poêle une pièce de 40 francs, sur laquelle le signor Giardini lui rendit religieusement 2 francs 50 centimes, non sans quelque façon discrète qui le réjouirent fort. « Dans quelques minutes, reprit Giardini, vous allez voir votre domina. Je vous placerai près du mari, et si vous voulez être dans ses bonnes grâces, parlez musique. Je les ai invités tous deux, pauvres gens. À cause du nouvel an, je régale mes hôtes d'un mets dans la confection duquel je crois m'être surpassé. » La voix du signor Giardini fut couverte par les bruyantes félicitations des convives qui vinrent 2 à 2, 1 à 1, assez capricieusement, suivant la coutume des tables d'hôtes. Giardini affectait de se tenir près du comte et faisait le cicerone en lui indiquant quels étaient ses habités. Il tâchait d'amener par ses lazzi un sourire sur les lèvres d'un homme en qui son instinct de napolitain lui indiquait un riche protecteur à exploiter. Celui-ci, dit-il, est un pauvre compositeur qui voudrait passer de la romance à l'opéra, et ne peut. Il se plaint des directeurs, des marchands de musique, de tout le monde, excepté de lui-même, et certes, il n'a pas de plus cruel ennemi. Vous voyez quel teint fleuri, quel contentement de lui. Combien peu d'efforts dans ses traits, si bien disposés pour la romance. Ah, celui qui l'accompagne et qui a l'air d'un marchand d'allumettes est une des plus grandes célébrités musicales, Gigelmi, le plus grand chef d'orchestre italien connu. Mais il est sourd et finit malheureusement sa vie privé de ce qui la lui embellissait. Oh, voici notre grand Ottoboni, le plus naïf vieillard que la terre ait porté, mais il est soupçonné d'être le plus enragé de ceux qui veulent la régénération de l'Italie. Je me demande comment l'on peut bannir un si aimable vieillard. Ici, Giardini regarda le comte, qui, se sentant sondé du côté politique, se retrancha dans une immobilité toute italienne. Un homme obligé de faire la cuisine à tout le monde doit s'interdire d'avoir une opinion politique, excellence, dit le cuisinier en continuant. Mais tout le monde, à l'aspect de ce brave homme, qui a plus l'air d'un mouton que d'un lion, eût dit ce que je pense devant l'assembleur sans ordre d'Autriche lui-même. D'ailleurs, nous sommes dans un moment où la liberté n'est plus proscrite et va recommencer sa tournée. Ces braves gens le croient, du moins, dit-il en s'approchant de l'oreille du comte. Et pourquoi contrarierais-je leurs espérances? Car moi, je ne vais pas à l'absolutisme, excellence. Tout grand talent est absolutiste. Eh bien, quoique plein de génie, Ottoboni se donne des peines inouïes pour l'instruction de l'Italie. Il compose des petits livres pour éclairer l'intelligence des enfants et des gens du peuple. Il les fait passer très habilement en Italie. Il prend tous les moyens de refaire un moral à notre pauvre patrie, qui préfère la jouissance à la liberté, ou peut-être avec raison. Le comte gardait une attitude si impassible que le cuisinier ne put rien découvrir de ses véritables opinions politiques. « Ottoboni, reprit-il, est un saint homme. Il est très secourable. Tous les réfugiés l'aiment, car, excellence, un libéral peut avoir des vertus. » Oh, 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 fit Giardini, voilà un journaliste, dit-il en désignant un homme qui avait le costume ridicule que l'on donnait autrefois aux poètes logés dans les greniers, car son habit était râpé, ses bottes crevassées, son chapeau gras et sa redingote dans un état de vétusté déplorable. Excellence, pauvre homme est plein de talent et incorruptible. Il s'est trompé sur son époque. Il dit la vérité à tout le monde. Personne ne peut le souffrir. Il rencontre des théâtres dans deux journaux obscurs, quoiqu'il soit assez instruit pour écrire dans le grand journaux. Pauvre homme. Les autres ne valent pas la peine de vous être indiqués. Et votre excellence les devinera, dit-il, en s'apercevant que l'aspect de la femme du compositeur, le comte ne l'écoutait plus. En voyant Andrea, la signora Marianna tressaillit et ses joues se couvrirent d'une vive rougeur. « Le voici !» dit Giardini à voix basse en serrant le bras du comte et lui montant un homme d'une grande taille. « Voyez comme il est pâle et grave, le pauvre homme. Aujourd'hui, le dada n'a sans doute pas trotté à son idée. » La préoccupation amoureuse d'Andrea fut troublée par un charme saisissant qui signalait Gambara à l'attention de tout véritable artiste. Le compositeur avait atteint sa 40e année, mais quoique son front large et chauve fût sillonné de quelques plis parallèles et peu profonds, malgré ses tempes creuses ou quelques veines nuançaient de bleu le tissu transparent d'une peau lisse, malgré la profondeur des orbites où s'encadraient ses yeux noirs pourvus de larges paupières aux cils clairs, la partie inférieure de son visage lui donnait tous les semblants de la jeunesse par la tranquillité des lignes et par la mollesse des contours. Le premier coup d'œil disait à l'observateur que chez cet homme, la passion avait été étouffée au profit de l'intelligence qui seule s'était vieillie dans quelques grandes luttes. Andrea jeta rapidement un regard à Marianna qui l'épiait. À l'aspect de cette belle tête italienne, dont les proportions exactes et la splendide coloration révélaient une de ces organisations où toutes les forces humaines sont harmoniquement balancées, il mesura l'abîme qui séparait ces deux êtres unis par le hasard. Heureux du présage qu'il voyait dans cette dissemblance entre les deux époux, il ne songeait point à se défendre d'un sentiment qui devait élever une barrière entre la belle Marianna et lui. Il ressentait déjà pour cet homme, de qui elle était l'unique bien, une sorte de pitié respectueuse, en devinant la digne et sereine infortune qu'accusait le regard doux et mélancolique de Gambara. Après s'être attendu à rencontrer dans cet homme un de ces personnages grotesques, si souvent mis en scène par les conteurs allemands et par les poètes de Libretti, il trouvait un homme simple et réservé, dont les manières et la tenue, exemptes de toute étrangeté, ne manquaient pas de noblesse. Sans offrir la moindre apparence de luxe, son costume était plus convenable que ne le comportait sa profonde misère, et son linge attestait la tendresse qui veillait sur les moindres détails de sa vie. Andrea leva les yeux humides sur Marianna, qui ne rougit point, et laissa échapper un demi-sourire où perçait peut-être l'orgueil que lui inspira ce muet hommage. Trop sérieusement épris pour ne pas épier le moindre indice de complaisance, le comte se crut aimé en se voyant si bien compris. Dès lors, il s'occupa de la conquête du mari plutôt que de celle de la femme, en dirigeant toutes ses batteries contre le pauvre Gambara, qui, ne se doutant de rien, avalait sans les goûter les bocconi du sieur Giardini. Le comte entama la conversation sur un sujet banal, mais dès les premiers mots, il tint cette intelligence prétendue aveugle peut-être sur un point, pour fort clairvoyante sur tous les autres, et vit qu'il s'agissait moins de caresser la fantaisie de ce malicieux bonhomme que de tâcher d'en comprendre les idées. Les convives, gens affamés dont l'esprit se réveillait à l'aspect d'un repas bon ou mauvais, laissaient percer les dispositions les plus hostiles au pauvre Gambara et n'attendaient que la fin du premier service pour donner l'essor à leur plaisanterie. Un réfugié dont les œillades fréquentes trahissaient de prétentieux projets sur Marianna et qui croyait se placer bien avant dans le cœur de l'Italienne en cherchant à répandre le ridicule sur son mari, commença le feu pour mettre le nouveau venu au fait des mœurs de la table d'hôte. Voici bien du temps que nous n'entendons plus parler de l'opéra de Mahomet, s'écria-t-il en souriant à Marianna. Serait-ce que tout entier aux soins domestiques absorbés par les douceurs du pot-au-feu, Paolo Gambara négligerait un talent surhumain, laisserait refroidir son génie et attiédir son imagination? Gambara connaissait tous les convives. Il se sentait placé dans une sphère si supérieure qu'il ne prenait plus la peine de repousser leurs attaques. Il ne répondit point. « Il n'est pas donné à tout le monde, reprit le journaliste, d'avoir assez d'intelligence pour comprendre les élucubrations musicales de monsieur. Et là, sans doute, c'est la raison qui empêche notre diva maestro de se produire au bon parisien. » Cependant, dit le compositeur de romance qui n'avait ouvert la bouche que pour y engloutir tout ce qui se présentait, « je connais des gens à talent qui font un certain cas du jugement des Parisiens. J'ai quelques réputations en musique, ajouta-t-il d'un air modeste. Je ne la dois qu'à mes petits airs de vaudeville et au succès qu'obtiennent mes contredanses dans les salons. Mais je compte faire bientôt exécuter une messe composée pour l'anniversaire de la mort de Beethoven. Et je crois que je serai mieux compris à Paris que partout ailleurs. » « Monsieur me fera-t-il l'honneur d'y assister ?» dit-il en s'adressant à Andrea. « Merci, répondit le comte. Je ne me sens pas doué des organes nécessaires à l'appréciation des chants français. Mais si vous étiez mort, monsieur, et que Beethoven nous fait la messe, je ne manquerai pas d'aller l'entendre. » Cette plaisanterie fit cesser l'escarmouche de ceux qui voulaient mettre Gambara sur la voie de ses lubies afin de divertir le nouveau venu. Andrea sentait déjà quelque répugnance à donner une folie si noble et si touchante en spectacle à tant de vulgaire sagesse. Il poursuivit, sans arrière-pensée, un entretien à bâton rompu, pendant lequel le nez du signor Giardini s'interposa souvent à deux repliques. À chaque fois qu'il échappait à Gambara quelques plaisanteries de bon ton ou quelque aperçu paradoxal, le cuisinier avançait la tête, jetait au musicien un regard de pitié, un regard d'intelligence au comte, et lui disait à l'oreille « Emato !» Un moment vint où le cuisinier interrompit le cours de ses observations judicieuses pour s'occuper du second service auquel il attachait la plus grande importance. Pendant son absence, qui dura peu, Gambara se pencha vers l'oreille d'Andrea. Oh, « Ce bon Giardini, lui dit-il à mi-voix, nous a menacé aujourd'hui d'un plat de son métier que je vous engage à respecter, quoique sa femme en ait surveillé la préparation. Le brave homme a la manie des innovations en cuisine. Il s'est ruiné en essais dont le dernier l'a forcé à partir de Rome sans passeport. Circonstance sur laquelle il se tait. Après avoir acheté un restaurant en réputation, il fut chargé d'un gala que donnait un cardinal nouvellement promu et dont la maison n'était pas encore montée. Or, Giardini crut avoir trouvé une occasion de se distinguer. Il y parvint et le soir même, accusé d'avoir voulu empoisonner tout le conclave, il fut contraint de quitter Rome et l'Italie sans faire ses mal. Ce malheur lui apportait le dernier coup, et maintenant... » Gambara se posa un doigt au milieu de son front et secoua la tête. « Oh, d'ailleurs, ajouta-t-il, il est bon homme. Ma femme assure que nous lui avons beaucoup d'obligations. » Giardini parut, portant avec précaution un plat qu'il posa au milieu de la table, et après il revint modestement, se placer auprès d'Andrea, qui fut servi le premier. Dès qu'il eut goûté ce mets, le comte trouva un intervalle infranchissable entre la première et la seconde bouchée. Son embarras fut grand, il tenait fort à ne point mécontenter le cuisinier qui l'observait attentivement. Si le restaurateur français se soucie peu de voir dédaigner un mets dont le paiement est assuré, il ne faut pas croire qu'il en soit de même d'un restaurateur italien, à qui souvent l'éloge ne suffit pas. Pour gagner du temps, Andrea complimenta chaleureusement Giardini, mais il se pencha vers l'oreille du cuisinier et lui glissa sous la table une pièce d'or, et le pria d'aller acheter quelques bouteilles de vin de champagne en le laissant libre de s'attribuer tout l'honneur de cette libéralité. Quand le cuisinier reparut, toutes les assiettes étaient vides et la salle retentissait des louanges du maître d'hôtel. Le vin de champagne échauffa bientôt les têtes italiennes et la conversation, jusqu'alors contenue par la présence d'un étranger, sauta par-dessus les bornes d'une réserve soupçonneuse pour se répandre çà et là dans les champs immenses des théories politiques et aristocratiques. Andrea, qui ne connaissait d'autres ivresses que celles de l'amour et de la poésie, se rendit bientôt maître de l'attention générale et conduit habilement la discussion sur le terrain des questions musicales. « Veuillez m'apprendre, monsieur, dit-il au faiseur de contredanse, comment le Napoléon des petits airs s'abaissa détrôner Palestrina, Pergolèse, Mozart, pauvres gens qui vont plier bagages aux approches de cette foudroyante messe de mort. Oh, « Monsieur, dit le compositeur, un musicien est toujours embarrassé de répondre quand sa réponse exige le concours de 100 exécutants habiles. Mozart, Haydn et Beethoven, sans orchestre, sont peu de choses. Peu de choses, reprit le comte, mais tout le monde sait que l'auteur immortel Don Juan et du Requiem s'appelle Mozart. Et j'ai le malheur d'ignorer celui du fécond inventeur des contredanses qui ont tant de vogue dans les salons. Oh, la musique existe indépendamment de l'exécution, dit le chef d'orchestre qui, malgré sa surdité, avait saisi quelques mots de la discussion. En ouvrant la symphonie en ut mineur de Beethoven, un homme de musique est bientôt transporté dans le monde de la fantaisie sur les ailes d'or du thème en sol naturel. Répété en mi par les corps, il voit toute une nature tour à tour éclairée par d'éblouissantes gerbes de lumière, assombrie par des nuages de mélancolie, égayée par des chants divins. Beethoven est dépassé par la nouvelle école, dit dédaigneusement le compositeur de romances. Il n'est pas encore compris, dit le comte. Comment serait-il dépassé? Ici, Gambara but un grand verre de vin de champagne et accompagna sa libation d'un demi-sourire approbateur. Beethoven, reprit le comte, a reculé les bandes de la musique instrumentale et personne ne l'a suivi. Gambara réclama par un mouvement de tête. Oh, ces ouvrages sont surtout remarquables par la simplicité du plan et par la manière dont est suivi ce plan, reprit le comte. Chez la plupart des compositeurs, les parties d'orchestre folles et désordonnées ne s'entrelacent que pour produire l'effet du moment. Elles ne concourent pas toujours à l'ensemble du morceau par la régularité de leur marche. Chez Beethoven, les effets sont pour ainsi dire distribués d'avance. Semblables aux différents régiments qui contribuent par des mouvements réguliers au gain de la bataille, les parties d'orchestre des symphonies de Beethoven suivent les ordres donnés dans l'intérêt général et sont subordonnés à des plans admirablement bien conçus. Il y a parité sous ce rapport chez un génie d'un autre genre. Dans les magnifiques compositions historiques de Walter Scott, le personnage le plus en dehors de l'action vient à un moment donné, par des fils tissus dans la trame de l'intrigue, se rattacher au dénouement. « Est vero !» dit Gambara, à qui le bon sens semblait revenir en sens inverse de sa sobriété. Voulant pousser l'épreuve plus loin, Andrea oublia pour un moment toutes ses sympathies et se prit à battre en brèche la réputation européenne de Rossini et fit à l'école italienne ce procès qu'elle gagne chaque soir depuis 30 ans, sur plus de 100 théâtres en Europe. Oh, il avait fort à faire, assurément. Les premiers mots qu'il prononça élevèrent autour de lui une sourde rumeur d'improbation. Mais ni les interruptions fréquentes, ni les exclamations, ni les froncements de sourcils, ni les regards de pitié n'arrêtèrent l'admirateur forcené de Beethoven. Et comparez, dit-il, les productions sublimes de l'auteur dont je viens de parler avec ce qu'on est convenu d'appeler musique italienne. Mais quelle inertie de pensée, quelle lâcheté de style. Ces tournures uniformes, cette banalité de cadence, ces éternelles fioritures jetées au hasard, n'importe la situation, ce monotone crescendo que Rossini a mis en vogue et qui est aujourd'hui partie intégrante de toute composition, enfin ces rossignolades, forment une sorte de musique bavarde, caillette, parfumée, qui n'a de mérite que par le plus ou moins de facilité du chanteur et la légèreté de la vocalisation. L'école italienne a perdu de vue la haute mission de l'art. Au lieu d'élever la foule jusqu'à elle, elle est descendue jusqu'à la foule. Elle n'a conquis sa vogue qu'en acceptant des suffrages de toutes mains, s'adressant aux intelligences vulgaires qui sont en majorité. Cette vogue est un escamotage de carrefour. Enfin, les compositions de Rossini, en qui cette musique est personnifiée, ainsi que celles des maîtres qui procèdent plus ou moins de lui, me semble digne tout au plus d'amasser dans les rues le peuple autour d'un orgue de barbarie et d'accompagner les entrechats de Polichinelle. Moi, j'aime encore mieux la musique française, et c'est tout dire, vive la musique allemande ! Quand elle s'est chantée, ajouta-t-il à voix basse. Cette sortie résuma une longue thèse dans laquelle Andrea s'était soutenu pendant plus d'un quart d'heure dans les plus hautes régions de la métaphysique, avec l'aisance d'un somnambule qui marche sur les toits. Vivement intéressé par ces subtilités, Gambara n'avait pas perdu un mot de toute la discussion. Il prit la parole aussitôt qu'Andrea parut l'avoir abandonné, et il se fit alors un mouvement d'attention parmi tous les convives, dont plusieurs se disposaient à quitter la place. Vous attaquez bien vivement l'école italienne, reprit Gambara, fort animé par le vin de champagne, ce qui d'ailleurs m'est assez indifférent. Grâce à Dieu, je suis en dehors de ces pauvretés plus ou moins mélodiques. Mais un homme du monde montre peu de reconnaissance pour cette terre classique d'où l'Allemagne et la France tirèrent leurs premières leçons. Pendant que les compositions de Carissimi, Cavalli, Scarlatti, Rossi s'exécutaient dans toute l'Italie, les violonistes de l'Opéra de Paris avaient le singulier privilège de jouer du violon avec des gants. Lully, qui étendit l'empire de l'harmonie et le premier classa les dissonances, ne trouva à son arrivée en France qu'un cuisinier et un maçon qui eussent des voix et l'intelligence suffisante pour exécuter sa musique. Il fit un ténor du premier et métamorphosa le second en basse-taille. Dans ce temps-là, l'Allemagne, à l'exception de Sébastien Bach, ignorait la musique. « Mais, monsieur, dit Gambara d'un ton humble, d'un homme qui craint de voir ses paroles accueillies par le dédain ou par la malveillance, quoique jeune, vous avez longtemps étudié ces hautes questions de l'art. » Sans quoi vous ne les exposeriez pas avec tant de clarté. Ce mot fit sourire une partie de l'auditoire qui n'avait rien compris aux distinctions établies par Andrea. Giardini, persuadé que le comte n'avait débité que des phrases sans suite, le poussa légèrement en riant sous cap d'une mystification de laquelle il aimait à se croire complice. Il y a dans tout ce que vous venez de nous dire beaucoup de choses qui me paraissent fort sensées, dit Gambara en poursuivant, mais prenez garde. Votre plaidoyer en flétrissant le sensualisme italien me paraît incliné vers l'idéalisme allemand qui n'est pas une moindre funeste hérésie. Si les hommes d'imagination et de sens tels que vous ne désertent un camp que pour passer à l'autre, s'ils ne savent pas rester neutres entre les deux excès, nous subirons éternellement l'ironie de ces sophistes qui nient le progrès et qui comparent le génie de l'homme à cette nappe, laquelle, trop courte pour couvrir entièrement la table du signor Giardini, n'en part une des extrémités qu'au dépend de l'autre. Giardini bondit sur sa chaise comme si un temps l'eût piqué, mais une réflexion soudaine le rendit à sa dignité d'amphitryon. Il leva les yeux au ciel et poussa de nouveau le comte, qui commençait à croire son hôte plus fou que Gambara. Cette façon grave et religieuse de parler de l'art intéressait le Milanais au plus haut point. Placé entre ces deux folies dont l'une était si noble et l'autre si vulgaire, et qui se bafouaient mutuellement au grand divertissement de la foule, Il y eut un moment où le comte se vit ballotté entre le sublime et la parodie, ces deux faces de toute création humaine. Rompant alors la chaîne des transitions incroyables qu'il avait amenées dans ce bouge enfumé, il se crut le jouet de quelque hallucination étrange et ne regarda plus Gambara et Giardini que comme deux abstractions. Cependant, à un dernier lazzi du chef d'orchestre qui répondit à Gambara, les convives s'étaient retirés en riant aux éclats. Giardini s'en allait préparer le café qu'il voulait offrir à l'élite de ses hôtes. Sa femme enlevait le couvert. Le comte, placé près du poêle, entre Marianna et Gambara, était précisément dans la situation que le fou trouvait si désirable. Il avait à gauche le sensualisme et l'idéalisme à droite. Gambara, rencontrant pour la première fois un homme qui ne lui riait point au nez, ne tarda pas à sortir des généralités pour parler de lui-même, de sa vie, de ses travaux et de la régénération musicale de laquelle il se croyait le messie. Écoutez, vous qui ne m'avez point insulté jusqu'ici, je veux vous raconter ma vie, non pour faire parade d'une constance qui ne vient point de moi, mais pour la plus grande gloire de celui qui a mis en moi sa force. Vous semblez bons et pieux. Si vous ne croyez point en moi, du moins vous me plaindrez. La pitié est de l'homme, la foi vient de Dieu. Andrea, rougissant, ramena sous sa chaise un pied qui effleurait celui de la belle Marianna et concentra son attention sur elle, tout en écoutant Gambara.